France Culture.
Prenez place, soyez les bienvenus à 13h. Nous vous proposerons une émission un peu spéciale. Alejandro Jodorowsky, cinéaste, bédéiste, créateur tout azimut, nous a reçus chez lui le jour de ses 97 ans, alors que sort chez ta chaîne un livre qui condense toute son œuvre. Mais avant d'aller le rencontrer, c'est l'heure de retrouver Sophie-Catherine Gallet. Bonjour.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et bonjour à tous. Jusqu'à demain soir se tient la 4e édition du concours La Maestra, co-organisé par Claire Gibault et la Philharmonie de Paris. Ce concours, suivi d'une académie de 2 ans, a pour but d'aider à la visibilité des chefs d'orchestre femmes dans un milieu encore très majoritairement masculin. Comment se déroule ce concours et quelles sont les retombées? C'est notre dossier du Point Culture du jour. Claire Gibault, bonjour.
Sophie-Catherine Gallet, bonjour.
Vous êtes la fondatrice du concours La Maestra et vous avez également été vous-même chef d'orchestre. Vous avez créé ce concours qui est suivi d'une académie de 2 ans dans le but d'aider à la visibilité des femmes chefs d'orchestre. Comment vous est venue l'idée de ce concours? À partir de quel constat?
Il y a vraiment très peu de présence féminine à la tête déjà d'orchestre permanent. Et comme chef invité, on était 4% en 2018. On arrive, grâce peut-être à la Maestra et même sûrement, à 12,5%. Oui, il y a un grand travail à faire pour donner de la visibilité au talent des femmes et puis habituer aussi les orchestres à être dirigés par des femmes. Et au fond, je fais partie d'une génération qui a reçu beaucoup de condescendance pendant l'exercice de sa profession. J'ai eu des moments très, très heureux, mais par moments, c'était vraiment la lutte, parce que ça hérissait les sensibilités de certains musiciens d'être dirigés par une femme. Et puis, je recevais aussi beaucoup d'arrogance ou de condescendance de la part de mes collègues ou des directeurs de salle, oui, c'est vrai.
Et donc là, c'est la 4e édition du concours cette année. Comment se déroule-t-il? Sur quels critères les chefs d'orchestre candidates sont-elles jugées? Quelles qualités, au fond, sont recherchées chez une chef d'orchestre?
Je pense que tout jury, on est tous concernés par, avant tout, la musicalité, trouver des personnalités qui ont vraiment quelque chose à dire et qui ont une facilité pour le transmettre, non seulement un charisme pour dialoguer avec l'orchestre, mais aussi une aisance physique pour transmettre leurs pensées musicales. Mais il est évident qu'avant tout, on veut être ému par des interprètes et des interprètes qui, si possible, aussi soient historiquement informés, donc avec une bonne culture musicologique.
Alors, comment se déroule ce concours concrètement? J'ai cru comprendre que toutes les épreuves sont accessibles au public.
D'abord, il y a une épreuve où les 16 candidates qui ont été sélectionnées sur les 225 candidatures de 50 nationalités dirigent une pièce. Elles avaient le choix entre 4 propositions. Et dans ces propositions, on fait toujours attention avec Olivier Mantei, le directeur général de la Philharmonie, qu'il y ait une pièce française, mais aussi une pièce de compositrice. Et puis, après cette éliminatoire, elles peuvent passer en demi-finale, et là, il en reste 8. Et cette épreuve de demi-finale, au fond, c'est pour connaître un autre aspect du métier, c'est l'accompagnement de solistes, soit chanteurs, soit instrumentistes. Et là encore, on a, avec Olivier Mantei, été très attentif à ce qu'il y ait des compositrices. Donc, il y aura le concerto pour flûte d'Odette Kartenlob et puis une pièce pour Bayan, percussion et cordes de Sofia Gubaidulina. Et après, c'est la finale et là, il en restera 4.
Très bien. Après le concours, donc la lauréate mais aussi la demi-finaliste sont toutes les deux accompagnées durant 2 ans au sein d'un programme que vous appelez l'Académie. Alors, en quoi consiste cet accompagnement? Comment il perpétue l'aide apportée aux femmes dans ce métier?
Tous les chefs qui commencent ont besoin d'être accompagnés, d'abord de trouver un agent qui leur donne la possibilité de diriger. Et plus on dirige, plus on se perfectionne. C'est vraiment l'expérience directe qui forge un chef d'orchestre et qui lui enlève aussi les peurs qui sont légitimes au début. Puis, Donc, dans cette académie, l'Orchestre de Paris invite les lauréates, même des demi-finalistes, à être assistants des grands chefs qui sont de passage, et puis à diriger quelquefois des concerts pour les familles, des concerts scolaires. Et moi-même, avec le Paris Mozart Orchestra, je les invite à partager des concerts pendant nos tournées. Donc, pas seulement à Paris, mais à Bourges. Nous avons une résidence artistique pour Bourges, capitale européenne de la culture 2028, et puis dans toute l'Europe. Et il y a beaucoup de mentorique aussi sur les conseils qu'on peut donner à un chef qui débute, une chef qui débute. C'est les relations avec un violon solo, le choix des éditions de musique, et puis quel genre de relation on entretient aussi avec son agent. Comment quelquefois il faut se défendre aussi. Et c'est très, très fructueux. On est très contente qu'il y ait des lauréates de la Maestra qui soient engagées comme chef permanent, comme Zoé Zeniodi qui vient d'être engagée avec l'orchestre de Buenos Aires, Stéphanie Childrens à Barcelone. Enfin, voilà, il y a toute un engagement de toute l'équipe du Paris Mozart Orchestra et de la Philharmonie pour les aider à avoir tous ces contacts.
Oui, donc vous observez déjà vraiment des retombées de votre concours et de l'académie qui suit. Alors, est-ce que vous menez aussi une réflexion en parallèle du concours et donc de l'académie sur la position du chef d'orchestre, sur leur place face à un orchestre?
Oui, moi, j'y tiens particulièrement parce que c'est une période de ma vie. Il est évident que je peux ne pas avoir la même approche que tous les autres chefs, parce que l'économie de la culture favorise plutôt le star system et le vedettariat. Et peut-être à ce moment où je suis de ma vie, je goûte ce qu'il y a de plus précieux, c'est les relations musicales, les relations avec les musiciens de l'orchestre et puis la profondeur de l'interprétation. Et au fond, moi, je dis, je ne veux pas dominer les musiciens avec lesquels je travaille, mais je ne me laisse pas dominer non plus. Et de créer un climat d'échange très spécial et j'en parle avec elles et j'essaie vraiment de les initier, de faire évoluer justement cette conception du rôle du chef d'orchestre. On n'est plus au temps des vieilles gloires qui se prennent pour des génies. Il y a des musiciens dans l'orchestre qui sont des grands musiciens et c'est magnifique quand ce métier devient une véritable collaboration, un véritable échange. Et voilà, c'est une micro-société, l'orchestre. Et voilà, ça s'apprend aussi à communiquer.
Merci beaucoup, Claire Gibault.
Merci.
On vient d'entendre quelques mesures du concerto pour flûte d'Odette Gartenlaube et à noter qu'aujourd'hui aura lieu à la Philharmonie de Paris la répétition publique de la finale à 18h et que les finales auront lieu quant à elles demain à 15h30 et 19h30. Pour celles et ceux qui ne pouvant pas se déplacer, vous pourrez également suivre les finales en direct sur le site de la Philharmonie et sur Arte Concert.
Suite de l'actualité culturelle, Sophie Catherine, un nouveau brevet pour les métiers d'art va être mis en place à partir de la rentrée scolaire 2026.
C'est par décret que le ministère de l'Éducation nationale a instauré ce nouveau brevet national des métiers d'art. À partir de la rentrée 2026, les élèves en classe de 3e auront à présent le choix entre le parcours en 4 ans via le CAP ou cette nouvelle formation d'une durée de 3 ans ouverte pour le moment à 4 spécialités, ébénisterie, maroquinerie, bijouterie et horlogerie. Si l'objectif de cette réforme est de faciliter l'accès aux métiers d'art, elle suscite de vives protestations de la part des professionnels du milieu car elle nécessite 885 heures d'enseignement en moins que le cursus traditionnel. Une réduction de la formation qui risque de limiter l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice de ces métiers de l'artisanat.
Et pour finir, en Espagne, la poursuite du chantier de la Sagrada Familia fait débat.
Il y a quelques jours, une croix de 17 mètres a été posée sur la tour de Jésus-Christ, qui culmine à présent à 172 mètres de haut, faisant de la Sagrada Familia l'église la plus haute du monde. Débutée en 1882, l'édification du bâtiment d'Antoni Gaudi devrait se terminer d'ici une dizaine d'années. Entièrement financée par l'argent des 5 millions de visiteurs annuels, la suite du projet suscite l'opposition de certains habitants de Barcelone. En effet, le projet originel nécessite la construction d'un escalier et d'une place au niveau de la façade principale, ce qui amènerait la destruction de plusieurs immeubles. Leurs habitants luttent ainsi depuis plusieurs années pour faire annuler ce projet, alors qu'ils ont acheté leur logement sans avoir été avertis de leur possible destruction. Bien que la Sagrada Familia soit propriétaire du terrain, ce conflit devra être arbitré par le maire de la ville, alors que Barcelone fait face ces dernières années à une crise du logement.
Merci beaucoup Sophie Catherine, bon week-end à vous.
À vous également.
Il est 13h et vous êtes sur France Culture.